48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 50e numéro du MAG de 48 FM. Et oui, c'est un numéro rond aujourd'hui. On passe le bonjour à Nico qui aurait dû être avec nous aujourd'hui et qui n'est pas là. Je dis bonjour à Ludo qui va être avec moi.
Nico qui n'est pas rond, hein, on le précise.
Non.
Oui, bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Bonjour. Et donc, trois invités. Alors, on en a un qui nous rejoindra en cours d'émission, c'est Stéphane Sora de l'AFL. Et donc, nos deux invités dans ces deux premières parties, ce sera donc Samuel Lecabec du Ciné-Théâtre de Saint-Chély et Mylène Chevalier du Pays du Gévaudan Lozère. Alors, on va commencer tout de suite avec Samuel Lecabec et le Ciné-Théâtre de Saint-Chély. Alors, peut-être, déjà, bonjour.
Bonjour.
Et puis, peut-être, vous pouvez nous dire un petit peu comment s'est passée la saison dernière, parce que c'était la première saison pour cet équipement du Ciné-Théâtre. Comment ça s'est passé? Est-ce que le public a été au rendez-vous? Et puis, finalement, comment vous construisez cette nouvelle saison de 2013-2014? Alors, elle a déjà commencé, mais on prend l'occasion aujourd'hui d'en parler.
Ouais, donc cette première saison, en fait, c'est plutôt bien passé. Elle a commencé hors les murs, dans différents lieux de Saint-Chély, gymnase et autres. Et puis, tout s'est rejoint, en fait, lors de l'inauguration du Ciné-Théâtre au mois d'avril, où on a pu faire à la fois le spectacle vivant et la programmation cinéma dans ce même lieu. Donc au niveau public, ça a plutôt très bien répondu. On a eu 2350 spectateurs pour le spectacle vivant. Et puis pour le cinéma, on a commencé donc les projections le 10 avril. Et à ce jour, on est à 12030 spectateurs. Donc ce qui est bon, ce qui est bien. Moi, là où je suis content, c'est que en fait le lieu est très ouvert, très diversifié en termes de public. C'est-à-dire qu'on a à la fois un public très populaire et puis aussi un public qui recherche de la culture cultivée. Et en fait, ces deux publics cohabitent dans un même lieu, chacun à la recherche en fait, de ce qu'il attend, donc soit un film art et essai, soit une comédie grand public, soit un film plutôt familial, soit un spectacle, je dirais, du genre comédie. Enfin, tout arrive à se mélanger au profit donc d'une ambition culturelle et artistique à différents degrés. Et c'est ça qui était c'était un peu le pari à relever, c'est-à-dire ne pas s'adresser qu'à une tranche du public ni à une autre, mais essayer en fait de répondre à toutes les attentes des différents publics de Saint-Chély et des environs de Saint-Chély.
Au niveau chiffres, vous avez dépassé vos objectifs initiaux.
Oui, en fait, je pensais que la première saison, en termes de spectacle vivant, serait assez difficile. Voilà, que je pensais que ça serait beaucoup plus dur de rassembler les publics. Mais ils ont répondu, en fait, spontanément. C'est vrai qu'on a eu des belles petites locomotives, hein, les Molières, etc. Enfin, ça a très bien marché. C'est sûr que la danse contemporaine, il y a encore beaucoup de travail à faire. Là, je pense que c'est plutôt en termes d'années. Mais tout ce qui est comédie, théâtre de renom avec des auteurs comme Molière, etc., ça marche très bien. Les gens attendent avec impatience ce genre de spectacle. Et pareil pour le cinéma, j'ai été surpris aussi de voir, mais en même temps je m'y attendais, il y a un vrai public à réessayer. Il y a sur chaque film à réessayer, j'ai à peu près entre 50 et 70 personnes. Même pour des films coréens, sous-titrés en français. C'est-à-dire qu'il y a un public aussi qui allait dans d'autres lieux pour trouver, pour rechercher en fait ce genre de film. Parce qu'il ne faut pas oublier que Saint-Chély, c'est aussi des hôpitaux, c'est aussi des lycées, enfin, des établissements scolaires, une usine. Enfin, ce sont aussi beaucoup de services et donc une population aussi qui est en recherche un peu de ces découvertes-là à réessayer. Et donc, c'est ce qui fait, en fait, la réussite du projet, plus en termes qualitatifs qu'en termes quantitatifs.
Oui, d'ailleurs, vous attendez l'obtention du label Cinéma Art et Essai, c'est ça ?
Oui, en fait, la première année, on ne peut pas l'avoir. La première année, en fait, c'est une année un petit peu de test. Et donc, je vais postuler en 2014 pour ce label que j'aurai. Donc ça, je suis très content parce que c'est bien aussi de proposer en fait, un cinéma différent, un cinéma de création, un cinéma d'auteur qui permet aussi de réfléchir, de porter un autre regard sur le monde, au moins un regard cinéphile.
C'est vrai que c'était un pari au départ, on ne sait pas sur un bassin de population comme celui du Nord-Lozère, de Saint-Chély, qui peut aller jusqu'à Schotzeg d'un côté, Langogne peut-être de l'autre, encore que Langogne, ils ont déjà un cinéma, de savoir qu'il y a un public pour ce genre de film, c'est vraiment intéressant ça.
Oui, c'est vraiment bien, et du coup, quand on fait des soirées débats sur des films assez singuliers, ben, y a un public qui répond. Donc là, dernièrement, on a fait un documentaire qui s'appelait « La ruée vers l'art » et qui parlait, je dirais, de la spéculation effrénée qu'il y a sur le marché de l'art contemporain actuellement. On a eu un petit débat, il y avait 25 personnes, et puis le film a dû rassembler en tout 60 personnes. Ce qui n'était pas gagné au départ.
Pas gagné d'avance, ouais. Alors, justement, comment le bilan de cette dernière saison a permis finalement de construire le projet pour cette année, pour cette nouvelle saison, et comment vous réinterprétez tout ça dans le projet pour cette saison et pour ce lieu finalement, parce que c'est aussi j'imagine, des ajustements qui se font en fonction de la façon dont le public répond.
Oui, en fait, c'est vrai que je me suis donné 5 ans pour créer un socle, vraiment un socle de programmation qui puisse toucher un peu tous les publics. Après viendra le temps de la spécialisation du lieu, de peut-être un projet artistique beaucoup plus affiné. Mais là, vraiment, le temps reste à la consolidation du projet d'établissement, à la consolidation financière, consolidation contractuelle. Là, on a encore des petits détails sur le bâtiment qu'on doit nous-mêmes travailler. Enfin, on est sans arrêt en fait, aux aguets. On est aussi à la recherche d'une consolidation en termes de gestion du personnel, en gestion humaine. Ce qui fait qu'on avance petit à petit. On a déjà un beau socle grâce au public qui vient, ce qui nous permet de travailler et de gagner du temps en fait, sur peut-être les 5 ans. Peut-être que je vais peut-être gagner une année, en fait. Pour singulariser le lieu sur le territoire culturel.
Socle et un beau bâtiment, hein, parce que c'est vrai, moi je suis allé le visiter il n'y a pas longtemps, je ne l'avais jamais vu, c'est vraiment quelque chose de magnifique.
Oui, très étonnant, avec, je crois, sa grande qualité, c'est l'acoustique. C'est-à-dire qu'on a eu un théâtre dans le théâtre, une coque en bois qui permet en fait, d'avoir un beau son, un son pur. Et c'est vrai que quand on accueille l'Orchestre National de Montpellier, on a une qualité d'écoute, une qualité acoustique, louée par les musiciens et louée par le public également. Et même pour le théâtre, on entend très bien la voix. Voilà. Après, ça reste un petit lieu, c'est ce que j'appelle un théâtre de poche, avec une grande proximité entre l'acteur et puis son public.
Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette saison 2013-2014 au ciné-théâtre ? On va parler d'abord peut-être spectacle vivant, et puis on reviendra peut-être sur le cinéma dans les prochaines semaines, puisque la programmation cinéma elle est plus régulière. Donc voilà, mais alors, peut-être sur l'aspect art vivant, quels sont les grands rendez-vous de cette saison qui elle a déjà commencé, mais
il y en a un qui est passé le 18 octobre. Déjà de grands rendez-vous.
Oui, c'était Van Gogh, Autoportrait, un très beau portrait, je dirais, de Van Gogh par un excellent comédien qui s'appelait Jean Cottrel, d'après sa correspondance. En fait, la programmation est très éclectique, hein, c'est-à-dire que j'essaye à chaque fois d'identifier un spectacle pour un type de public afin que chacun en fait, ait au moins une raison de venir au ciné-théâtre dans l'année. Et du coup, ça crée... Alors, ça crée des grands écarts, mais ces grands écarts sont aussi pertinents qu'un resserrement d'une programmation. Donc on a aussi bien de la danse contemporaine avec Un homme qui dort, qui va commencer, donc qui va être joué le 22 novembre. Donc c'est un spectacle.
C'est bientôt.
Oui, bientôt, co-accueilli avec les scènes croisées et puis avec le Centre culture et loisirs de Saint-Chély. Donc vraiment la danse contemporaine, donc là c'est le spectacle sur lequel on a tous pris des risques parce qu'on sait que ça va pas rassembler beaucoup, beaucoup de monde. Mais en termes qualitatifs, voilà, c'est une petite graine.
Et c'est possible de faire de la danse sur le petit plateau du ciné-théâtre ?
Alors, on sera à la salle des fêtes. Ah, voilà. C'est-à-dire que là, on va quitter les locaux du ciné-théâtre pour aller retrouver ceux de la salle des fêtes, parce qu'il y a un dispositif scénique qui fait que le public est en bifrontal, c'est-à-dire des deux côtés du danseur, et le danseur évolue au milieu des spectateurs. Voilà, donc un petit retour à la salle des fêtes.
Alors après, on continue avec plutôt du classique, c'est ça ?
Oui, en fait, les périodes de décembre, janvier, février à Saint-Chély sont très froides, très glacées. Et du coup, pour sortir de chez soi, il faut vraiment qu'il y ait, je dirais, un but. Parce qu'on rentre du travail, repartir alors qu'il y a de la neige, du froid. Et donc, je me suis un peu fixé comme ligne que décembre, janvier, février, ça serait plutôt du classique, de la comédie, des choses comme ça qui font qu'on a plus envie de sortir et d'oser braver les conditions climatiques. Et donc, bien sûr, j'ai fait appel pour le mois de décembre au Théâtre de l'Instant Volé, qui va nous jouer un Phédo, Mais ne te promène donc pas toute nue, qui est très agréable à regarder, à écouter, et puis qui va faire rigoler aussi certains barabans sur le fait que cette pièce met en dualité, je dirais, un homme qui est député, qui souhaite en fait devenir président de la République, mais pour ça, il doit faire attention aux égarements de sa femme qui se promène souvent en tenue légère, et puis à son plus coriace adversaire politique local qui, lui, vient... vient essayer de trouver la faille qui va le faire tomber. Voilà, donc un petit jeu de pouvoir très agréable. Et ensuite, ben oui, comme je le disais, janvier et février, là, donc il y a Vincent Roca qui va venir, ce célèbre tourneur-phraseur qui joue avec les mots. Georges Dandin de Molière aussi pour l'aspect comédie classique. Hein. L'année dernière, j'avais accueilli Le Malade Imaginaire qui avait très bien marché. Donc là aussi, je vois bien que ces grands repères de textuels, enfin de textes.
Et puis ça fait le lien, j'imagine, aussi pour les enseignants avec aussi les programmes.
Oui.
Voilà, les programmes scolaires. Donc je pense que c'est aussi intéressant de voir jouer ces textes dont on peut parler à l'école, au collège. Enfin voilà, je pense que.
Oui, donc on a une représentation scolaire le matin.
D'accord.
Pour les enseignants, et qui est déjà complète. Voilà, puis entre les deux, donc, j'ai eu l'opportunité de faire venir l'Orchestre National de Montpellier. Voilà, parce que j'ai souhaité créer un partenariat avec eux.
Pas et en donc... entier.
Ah non, nous, ça sera que des petites formes, ça sera pas comme amende. Donc nous, c'est vraiment des quatuors, des quintettes, des sextettes peut-être un jour, des trios. Voilà. Et donc là, c'est vraiment la musique baroque à l'honneur, avec une chanteuse soprane et trois musiciens. Et ça va être une très belle soirée dans l'écrin boisé du ciné-théâtre.
Alors on poursuit, et là c'est un projet qu'on a eu dans la présentation de toutes les saisons culturelles sur le département, puisqu'il va tourner sur tout le département et que c'est une création qui a lieu en Lozère, donc Les Agricoles, un texte qui s'est construit aussi sur le territoire avec la rencontre, pour votre partie c'était plutôt à Nesbinal si mes souvenirs sont bons.
Oui, j'étais allé à Nesbinal écouter Catherine Zambon faire une lecture de son texte, je l'avais rencontrée aussi, et puis elle a fait tout un travail sur le plateau de l'Aubrac, donc là ça coulait de source que le Cinéthéâtre devait être partenaire de cette création. Le texte est très frais et en même temps, il éclaire bien sur la situation actuelle des agriculteurs en Lozère, mais en France et je suppose partout dans le monde, sur la difficulté d'être exploiteur agricole aujourd'hui. Et voilà, entendre cette parole, c'est aussi être confronté à un problème social et professionnel que rencontre une partie de la population en France.
Alors on poursuit le joyeux bordel.
Oui, le joyeux bordel, en fait, ça, c'est un peu mon coup de cœur. L'année dernière, j'ai participé, en fait, à une journée, en fait, de présentation de projets organisée par Réseau en scène. Donc, c'était C'était à Montpellier. Et donc, dans cette journée, en fait, c'est une sorte de speed dating culturel. C'est-à-dire que les artistes ont 12 minutes pour présenter leur projet face à 80 programmateurs. Et donc, leur but, c'est d'essayer un peu de se vendre, de vendre leur prochaine création, de trouver des partenaires de résidence, des partenaires de co-réalisation, de coproduction, des préachats. Et donc, j'ai rencontré, en fait, Sandrine Clémenceau, qui a présenté son projet. Voilà, donc elle a présenté. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à un moment donné, elle a arrêté de parler et elle a pris son micro et elle s'est mise à chanter devant les 80 programmateurs. Et là, je me suis dit, bah, si elle a un couac, elle n'aura rien. Et donc, j'ai trouvé ce coup de bluff vraiment... j'ai beaucoup apprécié ça. Et du coup, elle a bien chanté. Elle a mis en avant, avec ses tripes, ce qu'elle pouvait faire. Et du coup, donc, je suis allé la voir ensuite à la fin de la soirée, parce que c'est plutôt ensuite autour d'un verre. Et donc, je lui ai dit, bah, écoutez, banco, moi, je vous prends en résidence une semaine au ciné-théâtre. Et donc, elle est venue au mois de septembre. Elle a répété pendant une semaine sur la scène du ciné-théâtre, matin et après-midi, avec son pianiste. Donc, des chansons très, très intimes, des chansons qui parlent beaucoup de générosité, de bienveillance, des chansons du cœur qui s'adressent en fait au cœur du spectateur et qui mettent en avant le destin d'hommes et de femmes, surtout de femmes prises dans la tourmente sociale et autres. Donc de très belles chansons, une belle prose, c'est très bien écrit, c'est un petit peu désuet, mais c'est ça que j'avais beaucoup aimé, c'est une ambiance particulière.
Elle a présenté des extraits lors de l'ouverture de saison d'ailleurs.
Oui, c'est ça, oui, elle a présenté donc trois chansons au public et on a pu apprécier en fait son talent de comédienne chanteuse, son timbre de voix et puis surtout une présence assez singulière, fragile et en même temps une très humaniste. Voilà.
Alors après on revient du théâtre, donc ça sera en avril.
Oui, donc là c'est un spectacle que j'ai vu au Festival d'Avignon, parce que chaque année je vais au Festival d'Avignon pour voir une vingtaine de spectacles dans toutes les catégories. Et ça me permet d'enrichir la programmation avec des succès publics. Et du coup, Inconnu à cette adresse a été un succès public, un succès spectateur. Et c'est un formidable texte qui remet en perspective aussi l'histoire, l'homme dans l'histoire, le destin de deux personnages pris dans la tourmente et d'une amitié qui va en fait se fracturer, se déliter à cause de la propagande nazie qui va créer cet antisémitisme. Et on va comprendre aussi comment un homme qui avait pourtant un collègue juif, comment en fait il va se transformer et devenir petit à petit un bourreau qui est capable de dénoncer son ami et de le parce qu'il est pris dans une doctrine, dans un dogme qui fait que l'autre n'a plus à être. Donc très beau texte, Inconnu à cette adresse.
Ouais, ce sera le 25 avril. Et ensuite, en mai, du jazz, un concert de jazz, Impérial Quartet.
Oui, ça c'est un spectacle que j'ai vu à la scène nationale de Sète, et je tenais en fait à avoir un petit peu de jazz dans la programmation, pour être toujours dans cet éclectisme et proposer des choses très diversifiées au public. Et donc j'ai été bluffé aussi par cet Impérial Quartet, ces quatre musiciens qui ont un talent musical hors norme, sur scène en fait c'est un vrai délire, c'est très fort, il y a une énergie communicative avec le public et du coup quand on voit un spectacle de l'Impérial Quartet, eh ben on commence à taper du pied dès la première mesure jusqu'à la fin du concert, on les accompagne par cette énergie et plus on donne, plus eux nous donnent et donc ça crée en fait un climat très très convivial, très chaleureux, avec ces musiciens qui jouent en plus plein d'instruments. Donc voilà, donc c'est vraiment un spectacle que je conseille à tous les amateurs de jazz, mais aussi de musique vivante, parce que la grande particularité de ce groupe, c'est qu'ils n'ont jamais oublié que la musique, même savante, sert aussi à danser. Et donc, ces quatre mêmes musiciens ont aussi une musique de bal qu'ils jouent fréquemment, une musique jazz de bal. Et ça m'a rappelé un petit peu les groupes bretons, hein, parce que je suis originaire de Bretagne. Et souvent, les groupes bretons, en fait, ce sont des musiciens qu'on voit dans les fest-noz, donc ils jouent une musique à danser, rythmée. Et puis, vous pouvez les voir 3 jours après dans une formation de jazz, où en fait, ils tentent d'élever un petit peu la musique bretonne vers d'autres sphères. Et du coup, c'est assez étonnant de voir des musiciens comme ça qui évoluent sur deux plans. Et j'ai retrouvé ça avec l'Imperial Quartet. Voilà, et c'est ça qui m'a séduit.
Et donc la saison se terminera avec un air de famille, ça sera en juin, donc au Ciné-Théâtre. Bon, on aura peut-être l'occasion de vous re-recevoir pour parler un peu de cette fin de saison. Peut-être quelques mots de cinéma, parce qu'on arrive au bout de notre temps pour cette première partie du MAG. Quelle est la thématique du mois au Ciné-Théâtre sur...
Alors, presque chaque mois, je fais une thématique. Ce que j'essaye de, je veux que le spectateur porte son regard sur une thématique ou sur un pays ou sur un réalisateur ou autre. Et donc cette année, ce mois-ci, j'ai choisi de faire un cycle Algérie, ici et là-bas, aller et retour, autour de 4 films qui vont nous aider en fait à porter notre regard sur une histoire commune qui s'est arrêtée avec l'Algérie. Dans les années 60, avec les événements d'Algérie, mais qui continue en fait par petits portraits, par petites touches, qui continue, je dirais, à nous rassembler, à nous fédérer avec ce pays, qui est pourtant bien éloigné, mais qui est si proche. Et donc j'ai mis 4 films en fait qui dressent des portraits humanistes. Et aussi des projets fédérateurs entre nos deux pays, nos deux histoires, parce qu'en fait, l'homme n'a pas de frontières, hein. Il peut cohabiter, il peut vivre, il peut aimer quelqu'un d'autre dans un autre pays. Et c'est ce que j'ai voulu montrer à travers ces 4 films.
Voilà, des films qu'on annonce régulièrement dans nos informations locales.
Voilà, et on retrouve toutes les infos sur le Ciné-Théâtre sur cinémathéâtre.wordpress.com. C'est ça ?
Oui, c'est notre petit blog.
Il y a plein d'infos dessus.
Voilà, il y a noté une séance exceptionnelle vendredi 15 novembre à 20h30 pour Mylène, qui adore cet artiste, et Michel Sardou qui sera en live au cinéma, comme oui. Ça se fait de plus en plus maintenant, les spectacles en live.
Oui, donc au mois de décembre, ça sera le Royal Ballet de Londres avec Casse-Noisette, donc là plutôt un ballet classique. Voilà, donc histoire de diversifier encore plus.
C'est tous les publics qui doivent pouvoir venir une fois ou l'autre au Ciné-Théâtre. Oui. Mais merci beaucoup, Samuel Lecavec. Donc toutes les infos, puis il y a toujours des très belles publications qui sont dans les différents lieux publics. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher du Ciné-Théâtre de Saint-Chély. Ludovic, une petite pause musicale.
Oui, on va écouter Vanessa Paradis avec Ilia, et on revient de suite après.
Des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures fermées, les serrures comme envolées, les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. On regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas. Il y a là là là, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi. On les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas. Il y a là les mystères, le silence ou la mer qui lutte contre le temps. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. y a là les murmures, un soupir d'aventure, comment mêler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi.
FM Le Mag.
Et voilà, on rigole, et on est un peu à la bourre pour relancer le jingle, mais voilà, c'est la deuxième partie de ce 50e numéro du Mag de 48FM, et on retrouve maintenant Mylène Chevalier du pays du Gévaudan dans l'Auxerre, un pays que j'ai bien connu il y a quelques années maintenant.
Que tu connais toujours.
Et que je connais toujours, vu que j'y habite en plus, donc tout va bien. Donc c'est l'ouest du département de la Lozère. Et donc, Mylène vient nous parler d'accueil de nouvelles populations et puis de trois ateliers qui vont avoir lieu dans les prochains jours.
C'est ça.
Bien, alors on va commencer peut-être avec un petit peu de décrire dans quel cadre vont se passer ces trois ateliers, un petit peu de définir qu'est-ce que je souhaite faire le pays du Gévaudan en termes d'accueil de population. Voilà, Mylène, je te laisse la parole.
D'accord. Donc c'est vrai que ces trois ateliers thématiques qui sont en lien direct en fait avec une mission accueil de maintien et accueil de nouvelles populations qui est menée maintenant depuis 2011 au niveau du pays du Gévaudan. L'objectif en fait de cette mission, c'est de travailler, on va dire, sur à la fois très en amont sur l'accueil de nouveaux arrivants, à la fois pour donner envie à des personnes qui sont extérieures au département de venir s'installer en Lozère, et puis aussi à des personnes qui sont aujourd'hui sur le territoire et qui souhaiteraient rester, mais qui n'ont pas forcément, qui ne trouvent pas forcément les conditions nécessaires, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau du projet de vie. Et donc l'idée, c'est bien de recenser au maximum l'offre qui est disponible aujourd'hui sur le territoire, à la fois pour la vie quotidienne, donc en termes de commerce, de services de proximité, mais aussi scolarité, vie associative, culturelle, etc. Ça, c'est vraiment, on va dire, l'amont, essayer de rendre visible tout ce qui existe aujourd'hui sur le territoire et qui contribue en fait à rendre le territoire attractif, à donner envie d'y vivre ou d'y rester. Et puis, on travaille aussi de l'autre côté de la chaîne, on va dire, sur vraiment l'accompagnement alors de porteurs de projets ou de personnes qui souhaitent venir s'installer en Lozère. Où là, sur ce volet-là, on travaille avec un réseau au niveau départemental qui permet de mettre en relation les personnes en fonction de leurs projets professionnels ou personnels, avec des partenaires qui vont pouvoir répondre le plus concrètement à leurs besoins, en fait.
Et vous étiez il n'y a pas très très longtemps avec ce réseau accueil au Salon Pro Emploi à Paris. C'est un des moments où justement rentrent les contacts, un certain nombre de contacts qui vont être suivis tout au long du temps.
Tout à fait, on a rencontré vraiment un certain nombre de franciliens notamment qui souhaitent quitter la capitale pour venir s'installer et se mettre au vert. Donc effectivement, on a pris des premiers contacts et aujourd'hui une partie du travail consiste à les accompagner pas à pas.
Ça part de l'idée, j'ai envie de venir m'installer à la campagne, jusqu'à un projet très précis. J'imagine qu'il y a un peu différentes façons d'accompagner les gens.
Complètement. C'est vrai qu'on a vraiment des profils très variés avec des projets très très différents. On a effectivement des personnes qui viennent et qui ont simplement envie en fait de se mettre au vert et qui n'en savent pas forcément plus sur les démarches à mettre en place, comment s'y prendre, quel emploi on peut trouver en Lozère ou quelles opportunités de création, de transmission d'entreprise existent. Donc ils viennent vraiment pour une première information sur le territoire. Et puis on a des personnes qui ont un projet très avancé avec une idée très précise de création d'entreprise ou très spécifique recherchée. Et donc là, au sein du réseau départemental, on a vraiment des personnes qui accompagnent à la fois sur la recherche d'emploi, sur la création, reprise, transmission d'entreprise, mais aussi sur comment on vit concrètement aujourd'hui en Lozère et quelles différences on peut avoir selon si on est au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest de la Lozère par rapport à l'offre existante.
Et l'objectif, c'est d'accueillir en Lozère, c'est pas spécifiquement d'accueillir sur le pays du Gévaudan. Voilà.
Non, déjà, si les personnes ont une idée de la Lozère, c'est déjà une première base. Après, on n'est pas en concurrence entre territoires lozériens.
Voilà, on entend un peu un téléphone, on va essayer de les éteindre. Alors, vous expliquez que ces ateliers, en l'occurrence les trois qu'on va retrouver, c'est pour attirer de nouvelles populations ou pourquoi pas garder les personnes. Là, en l'occurrence, on va plutôt se baser pour garder des personnes, ces ateliers, même si elles s'ouvrent aux personnes extérieures au département pour essayer de les faire venir, on risque de ne pas en avoir beaucoup.
Effectivement.
Vous avez vu comme j'ai bien comblé là pendant ce temps la question d'une minute trente.
Pardon.
Oui, donc on risque de pas en avoir beaucoup lors de ces ateliers, je suppose, malheureusement.
Mais c'est pas le but des ateliers, je pense.
C'est pas tout à fait le public visé. Là, l'idée, c'est vraiment d'échanger avec finalement l'ensemble des forces vives du territoire, donc à la fois élus, acteurs socioprofessionnels, habitants, finalement trois thématiques spécifiques qui sont en lien direct avec l'accueil de nouvelles populations, mais aussi le maintien de populations. Et donc on a un fil conducteur entre ces trois ateliers qui est vraiment l'évolution en fait des modes de vie en milieu rural. L'idée c'était de partir du constat que souvent on a peut-être à tort l'idée qu'en campagne il se passe pas grand chose, qu'en milieu rural c'est assez figé. Et en fait ce sont des territoires qui aujourd'hui sont en pleine mutation. Que ce soit sur la façon dont on vit sur ces territoires, mais aussi sur la manière dont on va pouvoir travailler sur ces territoires. Donc l'idée, c'était vraiment de proposer des temps d'échange en fait, avec ces forces vives sur ces trois thématiques, puisqu'on a un premier atelier qui va permettre... En fait,
c'est jeudi.
Qui sera jeudi.
Jeudi.
De 18h à 20h.
À la mairie de la Canourie.
À la mairie de la Canourie. Et donc ce premier atelier sera vraiment en fait une introduction aux deux autres ateliers puisque l'idée c'est de présenter en fait les spécificités économiques et démographiques de la Lozère, voir en quoi le territoire lozérien est attractif, mais aussi de présenter les résultats d'une étude qui a été donc coproduite par l'INSEE et le Conseil général de la Lozère sur qui sont les nouveaux arrivants, pourquoi est-ce qu'ils viennent s'installer en Lozère et finalement, à travers la présentation des résultats de ces deux études, expliquer et échanger sur pourquoi on a besoin d'accueillir des nouvelles populations en Lozère. Donc là, pour cet atelier-là, on aura deux intervenants. On aura donc Guillaume...
Deux intervenants bien connus sur les ondes de 48FM.
Nous aurons donc Guillaume Delorme.
Non, mais c'est pas possible, ça.
Je suis partout.
C'est présent. Et Pauline Morin, qui viendront nous présenter les résultats.
Pauline Morin, qu'on a entendu à plusieurs reprises, qui coordonne le réseau accueil en Lozère.
Qui était aussi au salon Prov Emploi.
Aussi.
Qui était avec Freddy.
Ouais, avec notre ami Frédéric Dumortier, effectivement. Bien, et donc ça, premier atelier, jeudi 14 novembre à 18h à la mairie de la Canourgue. Donc c'est les statistiques au défi des idées reçues de la Lozère, c'est comme ça que ça s'appelle.
C'est ça.
Après, deuxième atelier, ça sera le 28 novembre, donc dans quelques semaines maintenant. Et donc là, on va plutôt parler d'habitat.
Tout à fait. En fait, l'idée, c'était d'échanger cette fois-ci sur comment on peut vivre dans les centres-bourgs. C'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de centres-bourgs qui sont parfois en déshérence avec des commerces qui vivotent malheureusement, qu'on souhaiterait voir un peu plus dynamique, mais aussi un patrimoine bâti assez exceptionnel qui n'est pas toujours réhabilité. Puisqu'il ne répond plus forcément finalement aux besoins des nouvelles populations qui ont des attentes par rapport à l'efficacité énergétique du bâtiment, par rapport à la luminosité, il y a souvent des envies de jardin, etc., qui ne sont pas toujours compatibles ou a priori qui ne semblent pas compatibles en centre-bourg. Et donc là, l'idée sur cet atelier, c'était de faire intervenir le parc naturel régional du Livradois-Forez. Donc ce sera Cynthia Durand-Lasserve qui a suivi la mise en place d'un programme expérimental.
PNR du Puy-de-Dôme.
Enfin, c'est dans le Puy-de-Dôme.
Dans
le Puy-de-Dôme et la Loire.
Voilà. Et donc, c'est un programme qui a été lancé par la Datar Massif Central, qui est porté donc par le Conseil général du Puy-de-Dôme et le parc du Livradois-Forez.
Ouais, donc, c'est effectivement, l'histoire, c'est six villages qui, sur lesquels sont intervenus soit des étudiants d'écoles d'architecture, soit des bureaux d'études pour essayer de réfléchir à comment peut se développer le village, comment on peut redonner de la vie au village, c'est ça ?
En partant vraiment d'un travail participatif avec les habitants, donc ils ont vraiment essayé, donc ça a été sur une durée assez longue, hein, puisque c'est une étude qui a du fin, c'est un programme qui s'est étendu sur un an, et donc sur ces six villages, les équipes retenues ont vraiment travaillé avec les habitants pendant un an sur quels sont les problèmes dans le centre-bourg, comment on pourrait agir dessus, et quelle est la place aussi de la population dans ces centres-bourgs, comment est-ce qu'elle peut intervenir sur ces problématiques-là finalement.
Donc ça fait un beau défi pour, aussi pour la Lozère, puisque effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, on y est confronté à cette redynamisation des centres-bourgs. Et donc ça, donc le 28 novembre, c'est à 18h chez Camillou à Aumont-Aubrac.
Voilà.
Ah, tu y seras.
J'y serai. Ouais.
Chez Camillou, il y a toujours.
et puis, le troisième atelier, là, on va parler de télétravail, notamment.
Alors, pas que de télétravail. L'idée, là, c'était vraiment de travailler, finalement, de présenter les nouveaux modes de travail qui existent. Alors, il y a effectivement le télétravail qui est très connu, dont on a pas mal parlé avec l'inauguration des télécentres qui a eu lieu récemment.
Mais il marche pas, Saint-Chélis, vous l'avez fait par téléphone, je me rappelle, l'inauguration.
Si, ça marche très bien, puisque la fin de l'inauguration fonctionnait tout à fait bien et sans liaison téléphonique.
Donc, voilà, l'idée, c'est d'effectivement évoquer le télétravail, mais pas que, puisque autour des nouvelles technologies, voilà tout un tas d'opportunités qui existent, que ce soit en termes de e-commerce, e-tourisme, etc. Donc l'idée, c'est de présenter de manière assez concrète toutes ces opportunités qui existent et comment elles peuvent se décliner aujourd'hui sur le territoire lozérien. Donc là, on aura trois intervenants. On aura donc M. Morel Aluissier qui viendra nous présenter les nouveaux modes de travail.
Qui est un peu expert aussi sur ces questions.
Spécialiste du télétravail.
Du télétravail, et justement, qui a été à l'origine aussi de la prise en compte par la loi de certaines de ces problématiques liées à ces nouveaux modes de travail.
Voilà, donc il viendra vraiment nous présenter les applications concrètes de ces nouveaux modes en milieu rural. Et puis ensuite, il y aura donc Frédéric Dumortier, donc de la Maison de l'Emploi et de la Cohésion Sociale. Et,
on le salue.
et Sébastien Osiol de Lozère Développement, qui viendront nous présenter le positionnement de la Lozère par rapport à ces nouveaux modes de travail, vraiment en insistant sur ce qui se fait déjà et sur les opportunités à saisir pour nos territoires.
Et donc ça, c'est le 12 décembre à 18h à la mairie de Saint-Chélis.
Voilà.
Voilà. Voilà, il faut préciser que ce sont des réunions qui sont ouvertes à tous.
Alors, c'est ouvert à tous. On a vraiment eu à cœur de proposer des ateliers.
C'est gratuit aussi.
C'est gratuit. Et c'est plus des ateliers que des réunions, puisque l'idée, c'est vraiment de proposer des temps d'échange qui soient plus ou moins informels, qui pourront se prolonger à la fin par un apéritif offert par le pays. Et l'idée, c'est vraiment de faire de ces moments des temps forts et des temps d'échange. Bon,
on pourra avoir un retour sur ces ateliers après, vous allez...
Bien sûr, oui. Il y aura, je pense, des comptes rendus qui seront mis en ligne sur le site internet du pays.
Voilà, et puis, ce qu'on peut peut-être dire, c'est on peut participer à ces ateliers sans être forcément sur le pays du Gévaudan. Oui. Voilà, enfin, c'est aussi ouvert à tous les Lozériens, même au-delà. Enfin, si le sujet vous intéresse et que vous avez entendu parler de ces ateliers, n'hésitez pas à venir, même si effectivement ça a lieu à l'ouest du département, c'est pas forcément spécifiquement réservé aux gens de l'ouest. Voilà, merci beaucoup Mylène. Alors on va peut-être redonner le site internet du pays du Gévaudan, www.pays-gévaudan-lozère.fr.
Voilà. Ça. Merci à vous.
Merci bien, on va se retrouver après une petite pause musicale. Ludovic, qu'est-ce qu'on écoute ?
On va écouter 07, un titre dont je vais taire d'ailleurs le titre parce qu'il est trop long à lire et j'arrive pas sur l'anglais.
Never gonna
48FM Le Mag.
Et voilà, c'est la troisième partie de ce 50e numéro du Mag sur 48FM. Et on retrouve une équipe de l'AFL. Hein. Alors, pas l'équipe qui est forcément sur le terrain, mais qui est plutôt sur le bord du terrain pour faire en sorte
Je crois que l'entraîneur a joué un peu.
Oui, j'ai vu ça aussi. Alors, donc, Stéphane Sora, Jérôme Sainta, Christophe Boyer, donc de l'AFL. Bienvenue. Merci de nous rejoindre. Peut-être pour commencer un retour sur ce début de saison. Voilà,
comment, une nouvelle comment ça division, se passe. De nouvelles équipes. Stéphane, ouais, comment ça se passe alors ce début de saison?
Au niveau des résultats, plutôt bien. C'était une division qu'on avait laissée il y a quelques saisons maintenant. Donc c'est vrai qu'on a toujours, on se pose toujours quelques questions avant d'attaquer une nouvelle saison. Savoir si on a le niveau pour bien figurer, quelles sont les forces et les faiblesses des adversaires qu'on va rencontrer. Donc voilà, bon là après 6 matchs, je crois que le bilan est pas trop mal. Donc voilà, on va essayer de poursuivre sur cette dynamique.
Rappelle-nous le bilan sur 6 matchs.
Sur 6 matchs, on a fait 3 matchs nuls et 3 victoires pour 4 matchs à l'extérieur et 2 à la maison.
Invaincu depuis quand alors?
Depuis un petit moment.
Depuis 2012. Depuis
un petit moment que ça dure. Ouais.
Si on compte pas le match de coupe l'an dernier de France, ça fait un moment, ouais. Mm-hmm. Au niveau de l'effectif, il a un peu évolué par rapport à l'an dernier, rappelle-nous.
L'effectif s'est un peu étoffé. Déjà, notre première volonté avec les dirigeants était de conserver l'effectif de la saison dernière. Donc, c'est ce qu'on a réussi à faire. Quasiment la totalité de l'effectif est restée au club. Et donc, il y a quelques garçons, beaucoup de Lozériens, quelques garçons de l'extérieur du département qui nous ont rejoints. Donc voilà, pour l'instant, l'amalgame s'est faite de façon assez satisfaisante.
On peut dire que l'équipe est plus forte que l'an dernier ?
Bon, c'est toujours difficile à comparer. Ce qui est important, c'est pas de comparer les deux équipes. Ce qui est important, c'est d'être sur une progression, de sentir que semaine après semaine, mois après mois, l'équipe progresse. Et je crois que c'est ce qui est intéressant et c'est ce que les garçons sont en train de réaliser.
Avec une réserve qui marche aussi?
Pas vraiment pour l'instant, mais par contre, c'est aussi une équipe qui a découvert une nouvelle division. Donc, il faut aussi le temps que cette équipe-là se mette au niveau. Mais je suis persuadé que cette équipe va relever la tête parce qu'il y a énormément de qualité dans ce groupe.
Qui a éliminé l'ENL en Coupe Garloser quand même.
Tout à fait. C'était un match très abouti. Cette équipe-là a éliminé quasiment l'équipe première de l'ENL. Donc ça, c'était vraiment à souligner. Et ça permet au club de continuer l'aventure en Coupe Lozère.
Bien, on va peut-être parler aussi de ce qui fait l'actualité, c'est la Coupe de France, et donc avec déjà des étapes qui ont été franchies et une grosse étape qui s'annonce pour samedi. Comment se passe ce parcours et comment vous envisagez ce match de samedi ?
Déjà, cette aventure en Coupe de France a démarré pour nous au deuxième tour. Donc, ça nous a donné la possibilité d'affronter pas mal d'équipes de DHR, une équipe de PHA, pour pouvoir jouer au dernier tour une équipe d'Agde de CFA2. Donc, on s'est déjà rendu compte à ce tour-là que ce n'était pas évident d'arriver à être au niveau de ce genre d'équipe et a fortiori de les battre. Mais nous y sommes parvenus. Et donc là, c'est l'étape au-dessus. Lyon-la-Duchère, équipe de CFA, très bonne équipe de CFA, avec des moyens très importants, une ambition d'atteindre le niveau national très rapidement. Donc voilà, l'année dernière, dans notre parcours, on n'avait pas eu la possibilité d'être confronté à un club de ce niveau. On n'avait pas eu joué de CFA. Cette fois-ci, au septième tour, on va pouvoir se confronter à ce niveau et on verra ce qu'on est capable de faire.
Oui, l'équipe qui est une équipe de coupe, hein, Lyon-la-Duchère, hein, on l'avait vu l'an dernier, qui avait perdu, il me semble, contre Lyon, 32e ou quelque chose comme ça, non ?
Oui, c'était la saison d'avant. Ils avaient été opposés à l'Olympique Lyonnais en 32e de finale. Ils avaient perdu 3-1. Lyon-la-Duchère, c'est le deuxième club de Lyon. Hein. C'est un club très, très costaud, des joueurs, qui s'entraînent tous les jours, le matin, l'après-midi. Non, ça serait une belle opposition et je pense un bon moment pour pouvoir s'étalonner avec ce genre d'équipe.
Des semi-pros qui ne vous prennent pas à la légère, qui sont venus vous voir contre Narbonne le week-end qui vient de passer, c'est ça ?
Tout à fait. Ça, je crois que c'est le respect que l'ensemble du club a gagné notamment la saison dernière. Donc voilà, aujourd'hui, ces équipes-là nous prennent au sérieux, la preuve. 3 à 4 dirigeants et entraîneurs de Lyon-la-Duchère avaient fait le déplacement à Narbonne pour venir nous superviser. J'ai appris qu'ils avaient l'intention d'arriver la veille ce week-end. Donc voilà, c'est bien d'avoir ce respect-là. Personnellement, j'aimerais qu'ils nous prennent un peu plus à la légère, mais bon, voilà, c'est comme ça.
Mais tu les as feintés, t'as sorti Fadil, t'as mis Coco avant-centre pour qu'ils croient que Coco va jouer samedi prochain.
Bon, ça, fallait pas le dire. J'espère qu'il n'y aura pas d'auditeurs de Lyon, mais Coco, c'était l'arme secrète. Ouais.
Et vous avez besoin de bénévoles. On va peut-être laisser parler les autres. Vous avez besoin de bénévoles pour ce match parce que il va y avoir du monde. C'est tout un travail au préalable, en amont du match, qu'il va falloir fournir. Coco, peut-être.
Bien sûr. Et comme chaque année, comme on disait, chaque année, la fédération impose des normes en tant que sécurité de plus en plus importantes. Donc, en termes d'effectifs, rien que par rapport à l'année dernière, on a besoin de beaucoup plus de bénévoles que l'année dernière, pourtant, à des tours identiques. Donc, actuellement, c'est vrai qu'on a quand même un vivier assez important, soit de licenciés, soit de bénévoles qui tournent autour du club, qui nous permettent de faire face en général. Mais bon, on est toujours à la demande quand même de quelques bénévoles encore. Donc, si certains ont du temps de libre samedi après-midi pour venir nous aider à installer et pour nous aider la soirée, il est encore temps de se signaler donc, en appelant le siège du club. Donc, je redonne le numéro au cas où. Donc, au 04 66 49 03 04. Voilà. Ça sera avec plaisir qu'on les accueillera.
Voilà, vous avez fait une réunion préparatoire un lundi soir, il y a une semaine, il me semble, pour justement organiser au mieux cette fête, ça serait une fête encore, Stéphane, on espère. Il y aura des, comme à l'habitude, des grillades, de la musique, un peu de tout.
Oui, je crois qu'autour du match, c'est un vrai événement pour Mende et pour la Lozère. C'est d'ailleurs l'intérêt de pouvoir recevoir ce genre de match à domicile. C'est de partager ces moments avec les dirigeants, avec les licenciés, avec les Mendois, les Lozériens. Donc voilà, il ne faut surtout pas passer aux côtés de cette manifestation.
Et est-ce que vous sentez, vous tous, que ça serait, enfin, que c'est un peu plus dur que l'an dernier dans le sens où il y a une attente supplémentaire quand on a vu votre parcours l'an dernier. On se dit, bon, allez, un club de CFA, c'est à la maison, et on va passer, on va continuer, on est la FL. Vous sentez ça autour du club ou pas vraiment? Je ne sais pas qui va parler.
On le sent un petit peu autour du club, mais nous, on sait que ce sera difficile contre la Duchère. On n'est pas, on se prend pas pour ce qu'on n'est pas, donc... C'est vrai qu'autour, les gens pourraient l'attendre, qui connaissent un petit peu moins le foot, pourraient attendre à ce qu'une CFA, ce soit facile. On a battu des Ligue 2, pourquoi pas des CFA? Ils pourraient le dire. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus. Il faut vraiment respecter l'équipe qu'on va avoir en face, parce que Stéphane le sait mieux que nous. Il l'a dit déjà, mais c'est une très grosse équipe qu'on va avoir en face.
Alors, peut-être quelques consignes pour le public. Qu'est-ce que vous attendez du public qui sera dans le stade? Enfin voilà, je sais pas. Allez-y, dites-nous comment le public mandois et lausérien peut soutenir au mieux son équipe.
S'il y a un élément qui peut nous aider à combler la différence de niveau avec cette équipe de Lyon-la-Duchère, en plus des qualités des garçons et des efforts qu'ils vont réaliser sur le terrain, ça va être le soutien du public. Donc si vraiment les gens ont déjà confiance en les joueurs, en confiance envers le club, on compte sur eux pour venir déjà de retrouver le chemin du stade, ressortir les écharpes, peut-être les bonnets, je ne sais pas. Mais en tout cas, faire du bruit pour soutenir les joueurs, parce que ça sera un élément très important pour essayer de compenser la différence de niveau entre les deux équipes. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, je crois que ce dont tout le monde se rappelle la saison dernière, c'est cette communion entre les joueurs et le public. Donc c'est vrai que tout le monde a un peu hâte de retrouver ça. Et pourquoi pas dès samedi.
Voilà, c'est le genre de match qui se joue vraiment sur un détail, on le sait, on l'a vu par le passé. Dans la préparation préalable, les entraînements, justement, on essaye de pallier à toute éventualité pour que ce détail soit du bon côté, c'est-à-dire du nôtre.
Oui, ben on essaye déjà d'élever son niveau. Après, sur les préparations, on évite de changer grand-chose. Hein. Je crois qu'il ne faut pas trop sortir de nos habitudes. Par contre, oui, en effet, c'est ce genre de match qui nous fait progresser, qui nous fait grandir. Parce que les détails ont un peu plus d'importance qu'en championnat. Et je trouve que c'est aussi le bon côté de jouer ce genre de match. Au-delà de la qualification, c'est ces matchs-là qui doivent nous faire grandir, nous, sur le terrain, à l'extérieur, avec les dirigeants. Voilà, c'est des événements qui demandent à tout le monde un peu plus d'exigence. Et voilà, on va pas s'en plaindre.
Est-ce que vous avez eu le temps de superviser cette équipe ?
Non, je ne les ai pas supervisés, si ce n'est, comme j'ai pu le dire à la télé, j'ai pu visionner leur match sur OLTV par rapport à leur dernier match de championnat. Et puis j'ai pas mal échangé avec plusieurs entraîneurs de leur championnat. Donc voilà, je pense avoir une bonne vision des qualités et du peu de défauts de cette équipe. Mais elle en a quand même, donc on va essayer de les exploiter au maximum.
Du coup, on va travailler les entraînements en fonction justement de ces petits défauts que vous avez pu apercevoir.
Oui, on essaye toujours d'orienter les entraînements par rapport au match du week-end. Mais voilà, il ne faut pas trop changer les habitudes non plus. Mais bon, honnêtement, je crois que ce qui fera la différence, c'est l'état d'esprit. L'année dernière, j'en avais beaucoup parlé. Ce groupe-là a réussi à se transcender plusieurs fois dans la saison. Ben, c'est ce qu'il faudra arriver à faire ce week-end. Et moi, j'ai vraiment confiance en mes garçons. Je ne connais pas le résultat à l'avance, mais ce dont je suis à peu près certain, c'est qu'ils seront à la hauteur.
Au niveau des joueurs à disposition, l'AFL, il y a des blessés encore. On sait que vous n'avez pas été épargné par les blessures.
Oui, on n'a pas été épargné, malheureusement. On a déploré 4 blessures assez importantes, en tout cas, qui vont priver les garçons concernés des prochains matchs de coupe et de championnat. Je tiens à les citer, il y a donc Yvan Morda qui s'est blessé le premier au genou, ensuite Christophe Loyer, ensuite Johan Robert pour terminer malheureusement la série avec Mika de Freitas il y a quelques semaines. Donc ces 4 joueurs-là se sont fait opérer des ligaments croisés du genou et vont être éloignés des terrains 6 à 7 mois. Donc j'ai une très très forte pensée pour eux parce que déjà ils auraient aimé participer à la fête sur le terrain et puis ensuite c'est des garçons qui nous aurait énormément aidé sur ce genre de match pour être encore plus fort.
Alors, et s'ils ne peuvent pas se déplacer au stade, Guillaume? Alors,
déjà, on va peut-être rappeler pour le stade, à partir de quelle heure on peut s'y rendre. Est-ce qu'il y a une entrée payante?
Oui, il y a une entrée payante. Donc, les portes seront ouvertes à partir de 16h30. Par contre, pour tout ce qui est réservation de billets, donc on attend encore les billets de la Fédération. On devrait les avoir normalement demain. Donc de façon garantie, à partir de jeudi matin, les places seront en vente à l'office de tourisme. Peut-être demain après-midi, mais vraiment pas garanti. En tout cas, certains à partir de jeudi matin.
Voilà, à partir de jeudi, on peut aller les récupérer.
Ça coûte, ça va jusqu'à 8 euros en tribune et ça part de zéro pour les moins de 16 ans, en debout, en pourtour.
D'accord. Avec toute l'école de foot qui est invitée, je suppose, comme lors des précédentes années, l'école de foot qui est invitée.
L'école de foot est invitée, donc Coco précise, effectivement, il a raison. Donc c'est en pourtour pour les plus de 16 ans, c'est 5 euros et en dessous de 16 ans, c'est gratuit pour les enfants de moins de 16 ans. Donc.
Oui, et donc effectivement, Ludovic, on sera aussi de la partie pour vous faire vivre le match, hein, si vous ne pouvez pas être au stade, avec donc Ludovic qui sera au stade avec ses deux commentateurs préférés, notamment Laurent Julien et puis Mène. Voilà, et puis moi je serai ici même dans le studio pour faire les liaisons techniques, et puis je pense qu'il y aura aussi Nico qui assurera la technique au stade. Donc voilà, pas mal de on sera en direct à partir de 17h30 pour commencer un petit peu à faire le point sur l'ambiance. On réécoutera sans doute certaines déclarations qui ont été faites aujourd'hui par l'entraîneur notamment. Voilà, et puis on se mettra un petit peu dans l'ambiance du match pour pouvoir le vivre ensuite bien sûr en direct, voilà, grâce
Et en intégralité,
grâce aux moyens techniques mis à disposition à la fois par l'AFL et par la Ligue de l'enseignement, voilà, qui sont partenaires pour nous de ces retransmissions sur 48 FM.
Et on sera présent jusqu'à la finale.
Voilà.
Au Stade de France cette année.
Bien, on espère.
Merci à vous trois d'être venus. Donc, on le rappelle, c'est ce samedi 18h. Si vous voulez donner un coup de main, c'est pas de refus. N'hésitez pas à contacter le club. On remettra le numéro de téléphone sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. N'hésitez pas à appeler pour donner un coup de main si vous voulez aider l'AFL dans cette belle histoire de Coupe de France.
Donc ne pas oublier la prévente à partir de jeudi pour tous ceux qui veulent acheter leur billet avant.
Jeudi, c'est à l'office de tourisme intercommunal, place du Foirail à Mende. Donc voilà, jeudi, vous êtes sûr qu'elles y sont. Il faut y aller. Il faut prendre vos places.
Voilà. Et puis jeudi, n'oubliez pas le premier atelier du Pays du Gévaudan sur donc les statistiques et sur les nouveaux modes de vie en milieu rural, sur l'évolution des modes de vie en milieu rural.
Voilà.
Voilà.
Et Mylène qui n'a pas fait d'atelier samedi parce qu'il y a le match, hein, faut le préciser.
Voilà, et puis donc, effectivement, on suivait également donc, la saison du ciné-théâtre. Je vous rappelle le site internet cinematheatre.wordpress.com où vous pouvez retrouver toutes les infos donc, de nos trois invités. Ils étaient plus nombreux que ça, mais de nos trois parties de cette émission. Voilà, c'était le 50e numéro du MAG de 48 FM qui vous sera rediffusé jeudi à 18h11 et samedi à 11h. Mais bonne journée sur 48 FM. À bientôt.